Vous écoutez
RMC.
RMC.
C'est pas ne pas haïr, c'est pas aimer à tel point que tu peux pas aimer quelqu'un d'autre.
Je vous rappelle que demain, au Grand Prix de Singapour, c'est Charles Pérez, le pilote Ferrari, qui partira en première position.
Cette saison qui va pas se terminer en queue de boudin.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération After sur RMC avec Kevin Diaz, Thibault Leplat et Simon Dutin. 21h02, on est ensemble jusqu'à 22h bien sûr. Je vous rappelle que vous pouvez candidater pour participer à Génération After en tant que débatteur au milieu des consultants. Venez vous frotter à Kevin, à Simon, à Walid, à Thibault, par exemple, à Sofiane. Pour cela, vous appelez Max au 32-16 et jeudi prochain, 17 novembre, nous accueillerons l'une d'entre vous pour débattre autour de l'after. C'est une promesse qu'on s'est fait cette année dans le 20h-22h, comme on dit, dans Génération After, car vous êtes aussi membre de la Génération After. Les gars, rapidement, pour vous dire que le FC Bayern, Kevin, 4-1 désormais face au Werder Bremen en 33 minutes de jeu, ça déroule, tout va bien. Moussiala, phénoménal. Qui peut être un homme de la Coupe du Monde. Hein.
Ah oui, clairement.
Moussiala, attention. Grosse
clairement.
Doublé de Serge Gnabry, comme dit Polo. Léon Goretzka, on adore.
Goretzka
également. Attention, Sadio Mané est sorti après 20 minutes de jeu. C'est toi qui me signalais ça, Kevin. Oui.
C'est quand même surprenant. Je sais pas, on n'a pas vu le match, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais on
va falloir suivre ça avec précision parce que ça peut avoir une vraie incidence sur la sélection sénégalaise. Dans quelques jours, il boitait et il s'est mis en dehors des milieux du terrain. C'est Leroy Sané qui l'a remplacé. Messieurs, nous allons écouter Thibault Leplat. Place à la Ligue 1 désormais, après l'équipe de France, après la Coupe du Monde. Thibaut, tu vas écouter l'after dernier jour, pendant une retraite spirituelle sur la Côte d'Azur.
Tout à fait.
Tu vas écouter notamment Daniel Riolo, entre autres.
Et regardons la Méditerranée.
Que le regard posé sur les prestations de l'Olympique de Marseille, Ligue 1, Ligue des Champions, façon Igor Tudor, eh bien, a été trop indulgent, trop doux, pas assez exigeant. Jingle, Thibaut Leplat.
Non. Écoute, moi je suis dogmatique, alors que t'entends aux deux aphorismes. Mais qui est une forme de dogmatisme, hein, l'aphorisme.
C'était face à Wally.
J'étais frais au début, j'étais frais. C'était ma première saison.
Alors, Thibaut, t'écoutes.
Alors oui, j'ai écouté, contemplant la Méditerranée, je vous écoutais dans mes podcasts le matin. Moi, je suis plutôt de l'équipe du matin. Et j'ai trouvé ces dernières semaines qu'on était dans l'after très indulgent avec l'OM de Tudor. Je trouvais qu'il y avait une forme de peut-être que c'est bien, hein, peut-être on va voir pourquoi, mais qu'on était quand même très gentil avec Igor Tudor, qu'on avait tendance à passer beaucoup de choses. Et je voulais juste, pour commencer, demander à tout le monde de faire un petit exercice, d'essayer d'imaginer le dernier but contre Tottenham, le fameux but qui élimine l'OM de toutes les compétitions européennes. Souvenez-vous l'action, El Guendouzi est à droite. Et le ballon est perdu. Et à ce moment-là, contre-attaque, 3 contre 1. On a un Amin Harit qui tourne le dos au jeu, qui avance vraiment, qui fait 2 pas, mais à 2 à l'heure. Nuno Tavares qui est de l'autre côté du terrain. Et donc personne pour couvrir, alors qu'à ce moment-là, l'OM était qualifié. Donc contre-attaque, but de Tottenham. Qu'est-ce qui se passe là? Donc on a beaucoup accusé. Alors, ce qui était assez étonnant, c'est qu'Igor Tudor a accusé le Enfin, on a voulu au bruit qu'il y avait au Vélodrome. Donc, apparemment, il était pas au courant que c'était qu'on n'entendait pas, on n'arrivait pas à se parler au Vélodrome. Et on a pris ça comme étant une erreur. Alors qu'on a insisté là-dessus, mais je trouve qu'on n'a pas pris la mesure de l'importance de ce qui s'est passé là. Pourquoi je m'arrête là-dessus? Parce que je trouve que c'est symptomatique de ce qu'est le football de Tudor. Quand tu regardes les statistiques, j'essaie de faire un peu des j'en profite que Gilbert est pas là pour parler de stats. J'ai fait des comparatifs avec l'équipe de Sampdoria. Bon, on a un peu une équipe quasiment symétrique. C'est l'inverse de Sampdoria en gros. Sampdoria, ça défendait pas trop un contre un, ça défendait collectivement. Et Tudor, ça défend individuellement. Il y a énormément de duels individuels. Donc, on a une équipe qui est fondée sur l'idée du choc, du duel, face à l'équipe de Sampdoria qui était une idée du contrôle. Qu'est-ce que c'est que le football du contrôle? C'est-à-dire que ce qu'on avait à l'époque appelé football liquide et autres. C'est l'idée que tu vas essayer de organiser ton équipe à partir de principes collectifs qui vont permettre de réduire la marge d'incertitude. Et évidemment, plus t'as le ballon, moins t'as de chances de prendre de buts. C'est par définition, c'est un peu cette logique-là. La logique de Tudor, c'est l'inverse. C'est plus je vais gagner de duels, moins je vais avoir de chances de perdre le ballon. Le problème, c'est que quand l'un est basé sur une logique collective ou quand tu as le ballon, effectivement, tu supprimes la contre-attaque adverse, là, tu multiplies les risques en réalité. Et t'as que des décisions individuelles. Et tout est fondé sur la décision individuelle et sur un rapport de force. Tout est fondé sur le rapport de force et sur une décision individuelle. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que t'as une équipe qui est en réalité extrêmement fragile. Extrêmement fragile et qui, au moment de réfléchir, d'être lucide, d'avoir du recul, c'est-à-dire le moment du contrôle, on l'a vu dans le dernier match quand Payet est rentré, tout de suite l'équipe a respiré, on l'a vu tout de suite. Une équipe qui n'a pas de contrôle, c'est une équipe qui n'a pas de lucidité. Et il s'est passé ce qui s'est passé contre Tottenham, pas parce qu'il y avait trop de bruit au Vélodrome. Enfin, c'est faut rigoler, comme moi j'ai rigolé quand j'ai entendu ça. Pas parce qu'il y avait trop de bruit au Vélodrome, parce que les joueurs étaient cramés mentalement, cognitivement. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que les joueurs sont cramés à tous les matchs dès la 60e minute. On a des joueurs, on avait encore comment il s'appelle le Chilien
Alexis Sanchez
qui avait les crampes au bout de la 50e minute ce dernier match. C'est quand même très inquiétant quand on a une équipe qui est fondée sur les duels, c'est-à-dire le choc, c'est-à-dire les deuxièmes ballons, des chandelles, des situations extrêmement équivoques. Et de l'autre côté, une équipe qui est censée travailler sur le pressing et le physique et qui est en fait morte dès la 50e minute. Donc en réalité, ce que je vois là, c'est qu'on a un football qui est extrêmement fragile. Pour moi, cette équipe, elle est bâtie sur du sable, sur des principes de jeu qui sont extrêmement risqués. À savoir, tu peux te prendre un compte favorable, une chandelle, n'importe quoi. T'as pas la possession, t'as pas de contrôle, etc. Et dernière chose, Nico, je suis pas naïf. J'ai l'impression que quand même ce football-là, plus risqué, avec peut-être moins d'enchaînement, mais beaucoup plus de vertige, plaît plus que le football de Sampaoli, qui était un football de contrôle. Je crois que paradoxalement, c'est un football plus dangereux. Mais là, si on critique Tudor maintenant, on ne critique pas sa manière de jouer. C'est d'ailleurs pour ça que je le dis aujourd'hui. On ne critique pas sa manière de jouer, on critique ses résultats. Rappelez-vous, Sampaoli, dès le mois de novembre, on questionnait le manque d'efficacité, on questionnait le style de jeu alors qu'ils étaient sur le top 3 quasiment toute la saison. Et toute la deuxième partie de saison, ils sont deuxièmes. Donc toute la deuxième partie de saison, et plusieurs fois, alors qu'ils ont fait un nul, je crois que c'est Montpellier. Mm-hmm. Tout de suite, Longoria est venu défendre Sampaoli. Il a fallu qu'on explique la philosophie de jeu de Sampaoli pour que les gens adhèrent. Et c'est,
parce qu'elle est un peu moins primaire.
Parce qu'elle est plus sophistiquée. Qu'elle est plus rationnelle.
Qui est sophistiqué? Qui est plus sophistiqué?
Sampaoli.
Je le dis pas de manière hiérarchique. Je dis simplement que c'est un football plus cérébral.
Pas du tout, c'est un football qui est complètement désorganisé.
Non, attends, Vini Thibault après Kevin et Simon.
Non, parce qu'il est fondé sur la possession.
Vini Thibault,
on
peut parler ou pas?
Je
termine. C'est la fin de la vie tranchée.
Alors là, c'est l'objet de la soulage. Arrêtez, Kevin.
Un avis tranché de 7 minutes. Vas-y.
Ce que je veux dire, c'est que le football Sampaoli est un football beaucoup plus rationnel, beaucoup plus de contrôle, et le football de Tudor est un football émotionnel et un football de choc. Et ce qui fait que, voilà, il est beaucoup plus fragile.
Je suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire, par exemple. Quand tu me dis que c'est rationnel le football de Sampaoli, mais je vais te rappeler les compositions de Sampaoli ou pas? Il était presque à mettre le gardien numéro 10. Il voulait jouer qu'avec des milieux de terrain. Tu peux pas me dire que c'est rationnel, c'est complètement irrationnel.
C'est la définition de la raison.
Lui-même sur le banc, Sampaoli, que moi j'ai apprécié, suivre, c'est très intéressant. Mais c'est, il y a rien que son attitude sur le banc déjà, elle est pas rationnelle. Donc tu peux pas me parler
pas
de rationalité.
Football, ça, Kevin.
Mais si, mais bien sûr que c'est, si, c'est ce que tu dégages comme. C'est le reflet souvent de ton équipe. Mais ensuite, est-ce que tu aimes Marcelo Bielsa?
Ah oui, il adore Marcelo Bielsa.
Mais
oui,
tu aimes Marcelo Bielsa ou pas?
Oui.
Il est plus proche de Sampaoli ou de Tudor?
Je pense qu'il est plus proche de Tudor. Et je pense qu'il est.
Il est bien plus proche de Tudor parce qu'en fait, tu viens de décrire le football de Marcelo Bielsa. Des 1 contre 1 tout le terrain, du déséquilibre, des duels. C'est ce fameux le Bielsa Ball où à l'entraînement, il leur faisait faire des matchs incroyables où tous les adjoints étaient en train de gueuler, en train d'aboyer sur les joueurs pour qu'il y ait justement qu'on retrouve cette intensité du Vélodrome,
mais que ça aille à gauche à droite. Il faisait pas des chandelles en défense comme le.
Non, mais il y a pas de chandelles en défense. C'est juste que aujourd'hui, ce n'est pas Igor Tudor qui rate le 3-0 à 2 mètres de la ligne contre Strasbourg. Ce n'est pas Igor Tudor. Ce n'est pas Igor Tudor qui demande à Balerdi.
C'est la lucidité.
Mais c'est pas la lucidité. Il vient de rentrer. Il vient de rentrer. La tête de Kolasinac. C'est pas lui non plus. C'est pas lui qui demande à Kolasinac, à Balerdi, d'être à la 95e attaquant alors que son équipe, elle est qualifiée en fait. Balerdi, il peut aussi se dire, moi je suis défenseur, c'est pas peut-être moi qui va aller. Par contre, on va peut-être pas le perdre ce match.
C'est lucide.
Mais c'est pas Tudor qui demande à ces joueurs. C'est de la qualité. Il manque de qualité, c'est tout. Les joueurs manquent
de qualité. Il y a plus de qualité dans cet effectif.
Tu me parles.
À part Saliba.
Il manque les deux joueurs qui vont peut-être être dans la liste de demain de l'équipe de France.
Il y a plus de qualité offensive dans l'équipe de Tudor qu'en équipe de Sampaoli, très clairement.
Mais il y avait Arkadiusz Milik quand même avec Sampaoli, c'est pas mal, non? Alors, il est titulaire régulièrement.
Le Milik de Sampaoli.
Non, mais oui, mais c'est parce que Sampaoli n'a pas su l'utiliser aussi.
Sanchez.
Donc,
Mais Alexis Sanchez,
des contre-arguments, il y en a plein. Tu me parles de rapport de force, mais le football est un rapport de force. Que tu sois Sampaoli ou Tudor ou Bielsa ou Deschamps, le football, ce n'est qu'un rapport de force. Après, c'est comment tu veux le prendre en main, comment tu veux que ton équipe ait le jeu. Tu me dis qu'il n'a pas la possession. C'est faux. Marseille a la possession contre Lens, qui est deuxième au classement. Marseille a la possession et prend une frappe contrée aux 30 mètres de Pereira da Costa, qui finit par chance sous la barre. Donc, quand Tudor dit qu'il perd ce match sur de la malchance, c'est clairement de la malchance. Ce n'est pas les entraîneurs qui ratent les occasions. C'était pareil avec Peter Bosz à Lyon. C'était pareil à l'époque de Vieira à Nice. Il y a un moment, il y a l'entraîneur, ce qu'il met en place. On peut aimer, ne pas aimer, mais après, il faut voir. Et il faut voir les faits tangibles qui sont la qualité de l'effectif. Et moi, je pense que l'after n'a pas été trop simple avec ou trop gentil avec Tudor. Au contraire, l'after a regardé les matchs, ce qu'on a tous fait. Et je pense que l'OM, avec l'effectif qu'ils ont, je pense ils font pour l'instant une bonne saison. On va pas parler de très bonne saison, on verra à la fin. C'est une bonne saison. Ils ont failli se qualifier en huitième. Personne pensait qu'ils allaient être jusqu'à la dernière seconde, même qualifiés en Europa League, parce qu'ils étaient chapeau 4. Donc ils sont à leur place. Ils ont pas un effectif super. Moi, ce que je trouve, ce qu'il fait, c'est très correct.
La réponse de Kevin à Thibault dans un instant. Simon également voudra prendre la parole. A-t-on été trop indulgent avec Igor Tudor? Il y a beaucoup d'appels au 32-16, vous l'imaginez bien, les gars. Plein de messages sur Direct Studio et également sur la chaîne Twitch d'RMC Sport, où nous sommes en direct. Voilà, vous nous voyez là. Les gars, regardez. Bonjour à tous nos auditeurs, téléspectateurs, je sais pas comment on dit, streamers.
Ouais.
Streamers sur Twitch. J'avance doucement, mais on y arrive. Génération After RMC, 21h13, à tout de suite.